Bonjour à tous. Oui, culte en 3D est sur un sujet d'actualité, d'une actualité brûlante, l'avenir de notre planète. Et un sujet d'actualité parce que les candidats à l'élection présidentielle ont tous quelque chose à dire sur l'avenir de notre planète, l'ont inscrit, enfin cette question, ils l'ont inscrite dans leur programme électoral. Certains plus que d'autres, on jugera d'ici 2 mois. Mais c'est une question importante. Et le titre du message de ce matin, « Faut-il vraiment sauver la planète ?» est un petit peu provocateur parce qu'il y a le « vraiment ». Faut-il vraiment sauver la planète ? Comme si on pouvait douter des dangers que court la planète. Et je voudrais dire qu'à moins d'être d'un optimisme béat, on doit quand même se rendre à l'évidence, un petit peu comme Henri, là, on doit quand même se rendre à l'évidence que tout ne tourne pas rond sur la planète Terre, loin s'en faut. Il y a un vrai problème. J'ai fait une prédication en 91, c'était à Bruxelles, c'est pour ça que je dis 1991, au siècle dernier, sur justement ce problème écologique. Le titre, c'était « Dieu est-il vert ?». Et j'avais déjà les informations qu'en 100 ans, 75% des espèces animales et végétales avaient disparu. Que depuis 100 ans, les déserts avaient augmenté de 150% à cause du déboisement. Que chaque année, 20 milliards de tonnes de déchets étaient déversés dans la mer ou dans les océans. 20 milliards de tonnes. Alors les choses ont-elles changé depuis ? Il y a eu les accords de Rio en 92. Il paraît-il que la couche d'ozone a été plus ou moins rebouchée. Mais je ne sais pas si on peut quand même crier victoire. L'accident de Fukushima en mars 2011 et la dispersion considérable de déchets radioactifs a remis sur le devant de la scène et de façon dramatique le risque de l'énergie nucléaire. En novembre 2013, un typhon dévastateur a fait 10 000 morts. Aux Philippines. Et même si les spécialistes affirment ne rien pouvoir prouver, on peut se demander si le réchauffement climatique n'est pas responsable de la violence accrue de ces phénomènes naturels. Et aujourd'hui, on s'interroge même de la viabilité de la Terre. D'ici 30 ou 50 ans, la Terre sera-t-elle encore viable ? On se pose la question parce qu'on assiste à une explosion démographique. En 2 siècles, la population a été multipliée par 10. Nous sommes 7 milliards d'individus. Je viens de lire 9 milliards. 7 milliards, ça c'est les chiffres, les derniers chiffres. Je me souviens que lorsque j'étais jeune, c'était il n'y a pas si longtemps, je vous assure, on parlait de 3 milliards et demi. C'est fou, 7 milliards. Plus il y a d'êtres humains sur la Terre, plus il y a de besoins en termes d'énergie. Depuis 1970, ce qui est consommé, nous dit-on, dépasse ce qui est produit. Et le phénomène s'accentue année après année. Une ONG canadienne a calculé que nous consommons actuellement et chaque année les ressources d'une planète et demie. Je vous précise que nous n'avons pas cette demi-planète. Nous ne sommes qu'une planète. Nous consommons chaque année, les ressources d'une planète et demie, et au rythme actuel, il faudra 2 planètes au milieu de ce siècle pour couvrir nos besoins énergétiques. Une démographie galopante, plus une consommation qui, elle aussi, est galopante et qui provoque une série d'effets collatéraux, comme la perte de la biodiversité et le réchauffement climatique. À ce sujet, d'ailleurs, on annonce que la température de l'air pourrait augmenter entre 0,3 et 4,8 degrés d'ici la fin du siècle, et donc le niveau de l'eau s'élever parallèlement de 26 à 82 cm. 82 cm, on ne parle plus des Pays-Bas, de mon pays, la Hollande. Et autre donnée intéressante, parce que ça a été évoqué lors du sketch, la probabilité que l'homme et ses activités soient responsables du réchauffement climatique est de 95%. La probabilité qu'elle ne le soit pas, 5%. Depuis les années 70, c'est intéressant aussi, un groupe de chercheurs et de scientifiques de tous bords, qui s'appelle le Club de Rome, soutient la thèse que, je cite, « la croissance indéfinie entraînera une dégradation massive des conditions de vie et de la démographie en raison de la nature limitée des ressources et de l'accumulation des déchets ». Et ce groupe, depuis 1978, donne une date critique pour ce basculement vers une dégradation massive des conditions de vie. Et cette date, c'est 2030. Et cette date a été confirmée en 2012. Et 2030, c'est demain. Alors c'est vrai qu'on se demande parfois s'il n'y a pas un côté alarmiste dans ces informations qui serait un côté alarmiste qui serait voulu pour éveiller les consciences. C'est tout à fait possible, mais de l'autre côté, il y a une attitude qui se veut résolument optimiste, mais qui, à mon avis, est assez dangereuse. Et cette attitude optimiste consiste à dire que cette période actuelle que nous vivons n'est pas une crise négative, mais c'est une transition gigantesque. Et que grâce aux nouvelles technologies et les sciences, comme par exemple l'intelligence artificielle, nous allons vivre un bouleversement majeur qui devrait, je cite, « entraîner pour certains une explosion de croissance au niveau mondial ». Pas une crise, une transition qui pourrait entraîner une explosion de croissance pour certains. Il faut noter le « pour certains », peut-être pas pour tout le monde. C'est une des réactions possibles, l'optimisme. Rester résolument optimiste, et à notre niveau, ce serait de dire « tout le monde exagère un peu, on va bien finir par s'en sortir, on va trouver des solutions au fur et à mesure, comme on l'a toujours fait, et je vais l'appeler la posture de la bouche en cœur ». Je ne sais pas comment c'est la bouche en cœur, mais voilà. Optimiste un peu béat. Une autre réaction, posture, ce serait le repli sur soi. Où on se dit, moi je suis incapable de juger de la situation de la planète, je ne peux pas comprendre, et donc je vais laisser toute la responsabilité à ceux qui savent. À ceux qui savent prendre les bonnes décisions. Et il y a une autre réaction, une autre posture, qui serait faire le dos rond et qui est peut-être plus présente dans les milieux chrétiens, dans les églises. On fait le dos rond en attendant le retour de Christ, le retour de Jésus, et en considérant qu'à ce moment-là, ce sera justement le temps où d'une manière ou d'une autre, toutes les questions seront réglées et que l'essentiel ici, ce serait d'annoncer l'Évangile sans trop se préoccuper du reste. Et c'est une vraie question. Faut-il vraiment sauver la planète ? Car il y a des textes qui parlent effectivement du règlement de la question de la planète, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans l'Apocalypse, des textes bibliques. À la fin des temps va surgir une nouvelle terre, de nouveaux cieux où la justice habitera. Faut-il vraiment sauver la planète si celle-ci va être de toute façon changée à la fin ? Il y a un vrai problème. La planète va mal, mais il y a une vraie question, faut-il vraiment sauver la planète ? Alors, avant d'aller plus loin et avant de nous laver les mains des problèmes de la création, il faudrait peut-être aller plus loin. Et moi, je vous invite ce matin à découvrir trois raisons bibliques, trois raisons données par Dieu dans sa parole qui peuvent soutenir un engagement chrétien pour la préservation de la planète. Et le premier, c'est parce que nous sommes liés, intrinsèquement liés à cette création. On a vu les dessins des enfants de la création. La création du premier homme qui s'appelait Adam, et de la première femme, Ève. Mais Adam, le mot Adam vient du mot Adama, la terre. Et Adama, c'est le terrien. La terre a produit un terrien. Le terrien appartient à la terre. Il n'est peut-être pas du même moule, mais on est de la même planète que la terre. On est de la même planète Terre. Et quand on lit aussi le récit de la création, qui agence, vous savez, en 6 jours, qui est un agencement littéraire, la création, nous apercevons que nous avons été créés le 6e jour. Mais nous n'avons pas été créés tout seuls. Nous avons été créés avec tous les êtres vivants, comme vous le voyez dans le texte qui s'affiche sur l'écran. On est des êtres vivants en lien avec tous les autres êtres vivants. Et la bénédiction du septième jour, et même du sixième, et pour toute la création, Dieu dit sur toute la création des êtres vivants dans leur ensemble, voici, tout était très bon. Tout était magnifique. Toute la création est belle. Et c'est ce qui fait dire à la pasteur Cathy Badi, que certains d'entre vous connaissent, que nous sommes tous locataires et qu'il n'y a qu'un seul propriétaire. Et ce propriétaire, vous l'avez compris, c'est Dieu. Et on est appelé à tous louer Dieu pour cette création. Tous les locataires doivent devenir des loueurs de Dieu, du propriétaire. J'étais content de ma petite trouvaille, mais bon, bref. Alors, louer Dieu dans la création, ça ne veut pas dire tomber dans le panthéisme. Le panthéisme, c'est quoi? C'est de voir Dieu partout, ou plutôt de tout diviniser. Les arbres, c'est Dieu. La rivière, c'est Dieu. La nature, c'est Dieu. Certains écologistes pensent que Gaïa, c'est la déesse, c'est la nature. La déesse de la nature, c'est Gaïa. Et ils adorent en quelque sorte la nature. Et il y a un bon film qui est révélateur de ce courant panthéiste, c'est La forêt d'Émeraude, vous vous souvenez? Vous l'avez vu, où tous les crapauds sont un peu divinisés, l'eau aussi, les éléments, etc. Et donc il ne s'agit pas de tomber dans ce panthéisme, mais de tomber dans la reconnaissance de ce Dieu créateur d'une si belle création, comme on l'a dit tout à l'heure. Et il faut affirmer aussi autre chose, c'est que l'homme n'est pas le centre de la création. C'est Dieu lui-même qui est au centre de la création. Il y a des psaumes qui disent que tout appartient à Dieu et que les créatures sont créées par Dieu et pour Dieu. Ainsi, face au biocentrisme, c'est quoi le biocentrisme? C'est-à-dire, c'est la glorification de la vie, de la bios en tant que telle, qui est un petit peu la philosophie de l'écologie quand même. On célèbre la vie. Eh bien, face au biocentrisme, il faut défendre la vision du monde qui n'est pas anthropocentrique, centrée sur l'homme, mais théocentrique, centrée sur Dieu. Il y a un psaume magnifique, le psaume 148, qui invite toutes les créatures, que ce soit les vents, les montagnes, les arbres des forêts, les onagres, les zèbres, les dromadaires, les monstres marins, les hommes, les vieillards et les jeunes, et les adultes et les enfants, à célébrer Dieu. Nous avons une vision théocentrique de la création. Et il y a de quoi louer Dieu, l'harmonie du fonctionnement de la création, l'équilibre écologique, la place donnée à chaque élément de la nature, l'ordre des écosystèmes, je l'ai lu, est une démonstration de la sagesse et du génie divin. Et tous les locataires, je le répète, sont invités à le louer. Et ceux qui ne croient pas encore en Dieu peuvent voir dans la nature la trace du génie de Dieu, de la bonté de Dieu, de la beauté de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'infini de Dieu. Le problème, c'est quand on regarde la création, on peut voir aussi la trace de l'homme. La destruction, la pollution, la dégradation de la nature, l'exploitation de la création par l'homme nous attriste et nous enlève en quelque sorte des occasions de louer le Créateur, ou du moins affecte notre louange. Et on pourrait passer de la louange pour la création à la plainte et au gémissement. Et je parle de gémissement parce que c'est un mot que la Bible utilise pour parler de l'état de la création. Dans ce passage de l'Épître aux Romains, c'est dans le Nouveau Testament, et c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, et il est sur votre memento. Et on voit que la création gémit depuis le premier homme, depuis le premier Adam. Elle est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs de l'enfantement. Et elle gémit à cause d'Adam, parce que Adam a fait le choix de ne pas vivre dans une relation de vie vivifiante avec Dieu, de ne pas répondre à l'amour de Dieu. Et cette révolte par rapport à Dieu amène des perturbations, des dépressions au niveau des relations entre l'homme et Dieu, entre l'homme et la femme aussi, entre les hommes entre Caïn et Abel, et finalement aussi entre l'homme et la nature. Et la nature donc gémit sous les coups de la convoitise de l'homme, de l'avidité de l'homme, de l'orgueil de l'homme, de l'exploitation abusive de la terre faite par l'homme, de la recherche du profit, de la priorité mise à l'efficacité, du désintérêt de l'homme pour les générations futures et pour les autres en général. Adam, le terrien, défigure l'ouvrage du Créateur. Nous avons collectivement défiguré l'ouvrage du Créateur. Et le problème vient en fait du fond du cœur de l'homme, parce qu'avant même de parler de la pollution de la terre, on pourrait parler de la pollution du cœur de l'homme. Et de ces élans de destruction massive à l'égard de tout ce qui l'entoure, les hommes, les animaux, le sol, l'air, l'eau, les océans. Mais ce qui est frappant de voir, c'est qu'il y a une solidarité dans la souffrance. La création gémit, mais l'homme gémit aussi. Vous le voyez en jaune, elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu quand notre corps sera délivré. Avec la création, on gémit dans notre corps parce qu'on est comme elle aussi dans l'attente de quelque chose, d'une délivrance. Et Paul continue, ou c'est le verset précédent, « Il lui a toutefois donné une espérance. » À qui ? À la création. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. S'il y a une solidarité dans la souffrance, un gémissement commun entre l'homme et la création, il y a aussi en commun l'espérance de renouveau. L'espérance chrétienne pour l'individu, c'est celle de la résurrection du corps dont Jésus a ouvert la voie en ressuscitant des morts un jour de Pâques. C'est une résurrection corporelle. La Bible nous dit qu'il s'agit d'un corps spirituel que nous revêtrons par-delà la mort, un corps nouveau. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que la création attend la même chose, une terre nouvelle. Il y a aussi la rédemption de la création, la réconciliation de la création. Jésus va même parler pour le royaume à venir d'une nouvelle naissance. Comme on parle pour l'individu, comme il parle pour l'individu, en l'occurrence Nicodème, d'une nouvelle naissance. Il faut que vous naissiez de nouveau, nous dit Jésus. Il le dit aussi pour le royaume à venir. Donc l'œuvre du salut ne se limite pas au seul humain, elle s'étend à la création tout entière. On le voit, il y a un lien étroit entre l'avenir de mon petit corps et celui de la création. Il y a, comme je l'ai lu quelque part, une communauté de destin entre les deux. Ce n'est même pas des destins croisés, de temps en temps on se retrouve, c'est des destins liés. Alors c'est Dieu qui est le maître de ses destins et de ses destinées. C'est lui qui dit dans l'Apocalypse, voici je fais toutes choses nouvelles, à la fois pour moi, mon corps et mon être, et pour la création. Et donc c'est Dieu qui parle et l'espérance chrétienne ne repose pas sur l'homme, sur ses capacités à se renouveler lui-même, ou à même renouveler la création, mais sur Dieu qui établira une terre nouvelle et qui nous ressuscitera au dernier jour. C'est Dieu qui est l'auteur du salut. Mais cela ne doit pas nous empêcher pour autant, ou empêcher le croyant, de combattre le mal sous toutes ses formes et d'être sensible à la création autour de lui. On pourrait, en effet, et je repose encore une fois cette question, se demander pourquoi faudrait-il prendre soin de la création puisque de toute façon elle va être renouvelée. Ça fait deux fois que je pose cette question. Mais pour répondre, justement, on peut faire l'analogie avec le corps humain. Une analogie qui est tout à fait valable, puisque les destins sont étroitement liés, comme on l'a dit tout à l'heure, comme nous venons de le voir. Et cette analogie nous fait dire que comme je vais prendre soin de mon corps, en faisant un peu de sport, éventuellement, une fois tous les 15 jours, en me brossant les dents, une fois par semaine, ou en évitant de manger trop de chocolat un jour par mois, je vais prendre soin de ce corps qui de toute façon va être ressuscité. Mais je vais le faire quand même. De la même manière, je vais prendre soin de cette planète qui elle aussi sera renouvelée. Oui, notre engagement envers notre petit corps et notre grande planète est pleinement justifié dans l'espérance du renouvellement de toute chose. Deuxièmement, pourquoi s'engager pour la planète ? Parce que nous sommes liés à la création. Deuxièmement, parce que c'est le mandat que Dieu nous a donné. L'homme est un locataire de la création, mais pour autant est lié à la création, mais pour autant il n'est pas un simple animal évolué. La Bible nous dit que l'homme est à l'image de Dieu. Il a été fait à sa ressemblance, un être spirituel capable d'entrer en relation avec le Dieu d'amour. Et en tant qu'image de Dieu, justement, il a le mandat de dominer ou d'assujettir la terre. Oup, oup, oup. Il y a beaucoup d'encre, voire même de sang, qui ont coulé à cause de ce mot « dominer ». Et certains écologistes y ont vu comme un blanc-seing donné aux judéo-chrétiens pour détruire la terre. Mais ce n'est pas le cas. Le mot « dominer », le verbe « dominer », implique une délégation d'autorité. Puisque l'homme et la femme sont à l'image de Dieu, Dieu leur délègue l'autorité pour gérer la maison. Une autorité qui est une responsabilité. Et on pourrait parler de gérance parce qu'il faut rendre des comptes quand on est gérant. Et dans l'esprit de la parole de Dieu et dans les mots même choisis, il ne s'agit pas pour l'homme et la femme d'exercer une tyrannie sur la création, mais plutôt d'en prendre soin pour le bien de toutes les créatures et pour la gloire du Créateur. Et le mandat que Dieu nous laisse individuellement et collectivement, eh bien d'être des gérants qui prennent soin de cette création. Et dans le deuxième chapitre de la Genèse, le premier livre de la Bible, il est dit qu'Adam et Ève étaient dans le jardin pour le cultiver. Et non pas pour le saccager, comme on l'a fait pour les topinambours du pasteur d'Orthez, il y a quelques années. Vous ne vous souvenez pas de cet événement? On n'est pas là pour saccager le jardin. Et un jeune chrétien engagé dans la préservation de la planète disait avec beaucoup de sagesse, il n'est pas question de rétablir une nature vierge originelle, vous savez, cette sorte de nostalgie de la forêt d'émeraude, là, mais d'amener un espace vital commun dans lequel l'homme joue le rôle d'un intendant et non celui d'un exploitant. Et un autre nous appelle à être éco-responsable. En revenant à l'étymologie de ce terme, c'est-à-dire éco vient de oikos en grec, maison. Responsable de la maison, éco-responsable. C'est magnifique l'étymologie. C'est tout à fait la gérance, le mandat que Dieu nous a laissé, et ils disent être éco-responsable, n'est pas une réponse chrétienne à ce contexte de crise, mais c'est le mandat que Dieu nous a confié. Ainsi, on peut rejoindre les défenseurs de l'environnement sur la pratique des éco-gestes, des gestes dirigés vers la maison de la création, mais nous le ferons avec une optique différente. Non pas d'abord parce que les ressources de la planète s'épuisent ou que son climat se réchauffe, mais pour développer une attitude de reconnaissance à l'égard de notre Dieu et pour être plus fidèle dans le mandat qu'il nous a confié au sein de sa création. Troisième raison, parce que c'est une manière d'aimer notre prochain. Alors il y a plusieurs sortes de prochains. Quelqu'un disait « mon plus proche prochain, c'est mon épouse ». Mais je voudrais distinguer entre le prochain actuel et un autre prochain. Et notre prochain actuel, d'aujourd'hui, c'est celui qui est avec nous sur cette planète et un peu plus au sud de la planète. Et les pays du Nord, dits riches, même s'il y a des exceptions, regroupent, le saviez-vous, 20% de la population mondiale. Dans les pays riches, 20% de la population mondiale, mais ils possèdent 80 à 90% des richesses produites. 20%, 90%. Et ce n'est donc pas un hasard si ce sont les pays riches les plus consommateurs de la planète et donc responsables, les plus responsables des dégâts collatéraux à cette consommation. Et aujourd'hui, les pays les plus pauvres, globalement du Sud, mais avec des exceptions encore, les pays émergents veulent se développer. Mais les pays riches, les pays du Nord, leur disent « Écoutez, la planète va mal, il ne faudrait pas que vous vous développiez trop. Vous ne pouvez pas adopter un modèle de développement semblable au nôtre, sous peine de faire exploser les émissions de gaz à effet de serre. Ne vous développez pas !» Et si nous étions dans ces pays pauvres et émergents, est-ce que nous trouverions ça juste? Parce que la question de la justice se pose avec force. Est-il juste que les peuples les plus pauvres voient leur développement freiné parce que leur progression poserait un problème écologique à la planète, un problème dont les pays riches sont majoritairement responsables? Alors on pourrait être cynique et se dire que le sort de ces pays nous est indifférent. Et on pourrait, et certains le disent, ils n'avaient qu'à être riches. Mais la Bible n'est pas indifférente aux questions de justice sociale. Et il faut relire le prophète Michée, par exemple, qui dit ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu exerces la miséricorde. Et on relisait avec Yvonne le prophète Amos, qui parle de cette justice sociale globale, d'égalité. Et on pourrait faire référence à ce Jésus de Nazareth, dans son sermon sur la montagne, pour voir que Dieu, dans sa parole, s'intéresse à des questions de justice sociale, d'égalité des chances, du respect du plus pauvre, d'écouter la voix de celui qui est opprimé. Oui, la justice est en cause dans ce problème de la planète. Ça fait penser à cette déclaration de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie en 2001, qui parle de son pays, les États-Unis, et qui dit, écoutez bien, « La richesse d'une personne ne dépend plus de sa contribution à la société, mais de sa capacité à s'accaparer du revenu des autres. » Ça, c'est le bilan états-unien. Je répète, hein, « La richesse aujourd'hui d'une personne ne dépend plus de sa contribution à la société, mais de sa capacité à s'accaparer du revenu des autres. » C'est pas juste. Et il parle de son pays, mais c'est un peu ce qui se passe dans le monde également. La capacité à nous accaparer des revenus qui ne nous appartiennent pas, ce n'est pas juste. Et cet économiste de renommée internationale continue en disant qu'il y a certainement des mesures à prendre, mais il dit aussi, mais le temps presse et l'espoir vacille. Et en tant que chrétiens, nous sommes porteurs d'espérance. Nous avons cette espérance. Et je cite quelqu'un d'autre qui dit « C'est en nous mettant en chemin... » Ah non, je ne l'ai pas. C'est en nous mettant en chemin que nous finirons peut-être par aller plus loin. Et il dit « Il y a quelques siècles, nos frères et nos sœurs, chrétiens, chrétiennes, se sont engagés contre cette autre injustice planétaire qu'était l'esclavagisme. » Et Dieu a utilisé l'engagement de quelques-uns, ce sont des chrétiens qui ont aboli les premiers l'esclavagisme dans leur pays, en Angleterre en particulier. Et Dieu a utilisé l'engagement de quelques-uns pour y mettre fin. Peut-être a-t-il un plan similaire sur la question du partage des ressources énergétiques ? Point d'interrogation. En tout cas, l'engagement pour notre planète est une expression de notre amour du prochain actuel. Notre prochain d'aujourd'hui et notre prochain de demain. On va faire du Jean-Jacques Cousteau et parler des « future generations », les générations futures. Quel avenir pour nos enfants ? Quelle planète ? C'est une question d'amour du prochain de demain, nos enfants. Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ou petits-enfants ? Et la Bible a cette métaphore magnifique, enfin magnifique, je ne sais pas, mais pour parler de l'héritage parfois un peu pourri, que par notre comportement, nous laissons à nos rejetons. Les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu les dents gâtées. Notre comportement a eu des conséquences dans la vie de nos enfants. Alors, on ne va pas pouvoir leur garantir que l'on va stopper la fin des glaciers dans les Pyrénées. Pourtant, j'aimerais bien qu'ils reviennent, les glaciers dans les Pyrénées. Je trouve que ça manque. Il y en a encore quelques-uns, mais ils font 10 mètres. Et même si nous ne pouvons pas leur garantir ce genre de choses. On peut quand même faire quelque chose pour eux, pour ces enfants, pour ces jeunes, même ceux qui ne sont pas les nôtres, peut-être surtout ceux qui ne sont pas les nôtres. Et peut-être que cette chose, ce serait justement le respect de l'environnement, cette chose à léguer, serait le respect de l'environnement, cette sensibilité, en parler, montrer l'exemple. Vous savez, d'après l'étude d'un sociologue, les jeunes sont plus préoccupés par l'état de la planète et par son avenir que leurs aînés. Mais paradoxalement, pas plus engagés qu'eux. Et la question n'est donc pas seulement quelle planète laisserons-nous à nos enfants, mais aussi quels enfants laisserons-nous à notre planète ? Voilà une bonne façon de poser la question de l'avenir et de nos enfants et de notre planète. Voilà trois bonnes raisons pour lesquelles s'engager pour la préservation de la planète bleue. Mais une question demeure, parce que nous sommes liés à cette création, parce que c'est notre mandat laissé, donné par Dieu, un beau mandat, et par amour du prochain. Mais une question demeure, que faire ? Alors, les écologistes, nous appellent à un changement. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils utilisent un terme très évangélique pour cela. Ils lancent un appel à la conversion écologique. Un changement, oui, mais le mot est intéressant quand même, un changement radical de notre style de vie. Et on pourrait effectivement accepter ce terme de conversion tout en sachant qu'avant de changer de style de vie, il faut une conversion du cœur. Un changement du cœur, une dépollution du cœur, et cette dépollution, elle peut se faire en Jésus-Christ. En étant transformé par lui, pardonné pour nos pollutions, nos attaques contre les autres, contre lui, contre la nature. Un changement radical et en même temps un changement progressif où il change notre cœur, où il les transforme en un cœur de chair, où il nous apprend à nous décentrer de nous-mêmes pour nous ouvrir à Dieu et aux autres, pour nous ouvrir à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Et il faut nécessairement ce changement du cœur. Mais on peut accepter aussi un changement dans notre style de vie parce que nous aurions compris l'importance de la création dans le plan de Dieu, dans le plan de salut, de rédemption, de réconciliation cosmique de Dieu, et nous avec. Oui, certainement, on pourrait même parler d'une révolution dans notre style de vie, et on va faire parler Jacques, quand Jacques a dit, et Jacques, ce n'est pas le Jacques de la Bible, c'est Jacques Ellul, qui est un voisin de Pessac, un grand philosophe théologien. Et il parle d'être révolutionnaire dans son style de vie en tant que chrétien. Et voici ce qu'il dit. « La situation du chrétien dans le monde est réellement révolutionnaire car elle refuse la religion du fait accompli. »
C'est comme ça.
« Et remet ainsi en question les structures fondamentales de la civilisation. » Le toujours plus, le profit, la croissance. Être révolutionnaire, c'est porter un jugement sur ce qui est, au nom d'une vérité qui n'est pas encore mais qui vient. Wow. Bon, il faut s'appeler Jacques Ellul pour écrire comme ça. Mais résister au fait accompli que nous impose parfois cette société dans laquelle nous vivons, et par la vérité de la parole de Dieu, du royaume à venir, mais qui vient, qui est presque déjà là. Il me semble que nous devons reconnaître que notre civilisation fait fausse route quand elle parle de croissance à tout prix, quand elle idolâtre l'argent, quand elle vénère le confort d'abord, quand elle méprise le pauvre et l'étranger, quand elle place le bien-être comme valeur absolue. Résister, être le petit grain de sel qui empêche la machine de tourner tranquillement en écrasant tout ce qui l'entoure. Être un grain de sel ou tout simplement du sel, comme le disait Jésus, vous êtes le sel de la terre. Le sel qui permet de préserver ou de conserver la terre, ou de conserver d'autres choses, mais là, la terre a donné du goût aussi. Alors vous me direz que c'est peut-être un chouïa philosophique, ces grandes idées, et vous auriez raison, et vous seriez d'accord avec ce même Jacques Ellul qui disait aussi cette très belle phrase, il faut penser globalement, avoir les grandes pensées, et agir localement. et agir localement par de petites choses, parce que tout le monde s'accorde à dire, même les grands scientifiques, que c'est par là, les petites choses, qu'il nous faut commencer. Que l'on soit spécialiste ou non du sujet, on voit mal finalement une autre approche que celle consistant à faire toute notre part, au minimum par des comportements réfléchis et conséquents. Tout cela ressemblant fort, par rapport à l'ampleur des enjeux, au comportement du colibri. Commencer par des petites choses, l'effet papillon, c'est ça, hein ? Petite cause, grands effets. Mais dans le sens négatif, peut-être, je n'ai pas bien entendu. Mais voilà des petites choses. J'ai lu une liste de petites choses à faire. Éteindre les éclairages superflus et les appareils électriques non utilisés, même ceux qu'on laisse en veille. Les ordinateurs en veille, il y en a quelques-uns. Deuxième, préférer la douche au bain. Moi, je préfère de toute façon la douche au bain, mais il vaut mieux préférer la douche au bain. Et il faut trier les déchets et recycler autant que possible. Préférer les produits locaux et frais à ceux de l'industrie agroalimentaire. Manger moins de viande, ça va être dur pour Dirk et moi. Mais on va s'y mettre, hein, Dirk. Nous habiller un peu plus. Et baisser le chauffage. On l'a vu dans le sketch. Nous déplacer à pied ou à vélo, quand c'est possible. Et c'est pas noté, mais mutualiser aussi nos machines, nos outils, nos voitures, nos logements. Alors c'est pas un truc pour se rendre coupable, mais pour se donner des idées. Et moi, je vois pour ma part, je vois certains points, waouh, je peux me dire, waouh, c'est bien. Et pour d'autres points, je me dis, tiens, peut-être que je pourrais mettre ma touche. Et au niveau de l'Église, vous savez, on a pris une décision absolument révolutionnaire. Nous allons changer les gobelets en plastique en des gobelets éco-responsables. Incroyable! Bah. Alors, ils sont plus chers, le problème. C'est le problème, ils sont plus chers. Mais on veut y aller et nous avons sûrement d'autres efforts à faire. Mais qu'est-ce que cette histoire de colibri ? Vous l'avez entendu ? Le colibri, tout à l'heure. C'est une légende racontée par le mouvement de la sobriété heureuse. Sobriété heureuse. Alors c'est l'histoire d'un incendie de forêt et tous les animaux sont terrifiés, ils assistent impuissants au désastre. Il y a seul le petit colibri qui s'activait. Et il allait chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter dans le feu. Au bout d'un moment, le tatou, c'est ce que c'est un tatou ? C'est pas beau un tatou, mais voilà, c'est, ça fait partie de la création. C'est un genre de porc épique, mais sans les piques, et avec des écailles, avec un long... bref. Le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu !» Et le colibri lui répondit « Je sais bien, mais je fais ma part. » Trois mots en guise de conclusion. Dans notre rapport à la planète, confiance. Confiance en Dieu, c'est lui qui tient toute chose entre ses mains. Et c'est lui qui sauve la planète, et moi avec. Mais reconnaissance des merveilles de cette création, du génie de Dieu visible dans la création, émerveillement même, qui change notre manière de voir et de faire les choses, notre éthique de la reconnaissance. Et puis, dernier mot, engagement envers cette création. Un engagement motivé non pas par l'inquiétude ou l'angoisse, mais encore une fois, par la reconnaissance pour cette création et par une prise de conscience du privilège que nous avons d'être pour Dieu des acteurs responsables dans la préservation de cette belle planète. Un engagement libre et volontaire au service de Dieu pour son prochain et pour son environnement. Confiance, reconnaissance, engagement, sachant que le meilleur est encore à venir. Amen. On va prier ensemble. Oui, Seigneur, nous te sommes reconnaissants de nous avoir placés dans ce jardin, dans cette si belle création. Et c'est vrai que les Pyrénées enneigées sont magnifiques et renvoient au Créateur. On renvoie à la beauté de cette création dont tu es l'auteur. Nous te remercions aussi pour le privilège de nous avoir placés dans ce jardin et d'avoir fait de nous tes représentants, de nous avoir donné ce mandat de gérer cette terre, cette création, pour que l'homme y habite, y vive, s'y développe, avec cette création, avec les autres êtres vivants. Et nous te demandons pardon aussi, en même temps, d'avoir laissé nos pensées égoïstes centrées sur nous-mêmes, notre confort, notre enrichissement personnel, prendre le pas sur la préservation de la planète. Nous te demandons pardon collectivement, faisant partie de cette humanité, et puis aussi individuellement, parce qu'on doit le reconnaître, moi le premier, que je m'en fiche parfois. Seigneur, aide-nous à comprendre par ta grâce ce plan magnifique de salut pour nous, individus. Merci parce que ce corps qui est corruptible, rongé par la maladie et le vieillissement, sera renouvelé un jour par la résurrection d'entre les morts, parce que nous te faisons confiance là-dessus, Seigneur. Que de la même manière, cette création qui est soumise à la corruption va être renouvelée. Merci pour cette espérance qui change tout, et notre manière de voir les choses, et notre manière d'agir. Et c'est dans cette espérance et avec reconnaissance pour ce que tu as créé, et que nous voulons nous engager à vivre dans le respect de cet environnement que tu nous as donné, et de peut-être faire plus selon les dons que tu as donnés à chacun, selon la place que tu lui as donnée dans ce monde, selon le métier qu'il exerce dans ce monde aussi. Seigneur, merci pour le salut global en Jésus. Merci pour la croix où tout a été accompli. Oui, Seigneur, loué sois-tu pour ta grande œuvre de salut, de rédemption, de renouveau. Amen.